Bienvenue dans Sexologiquement Vôtre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la plus grande étude qui a été menée sur la pratique de la sexologie en France. Vous allez découvrir comment les sexologues et sexothérapeutes sont formés, comment ils sont rémunérés, les difficultés qu'ils rencontrent. Bref, vous allez mieux connaître les métiers de la sexologie et les difficultés qu'ils rencontrent. Pour cela, nous allons recevoir Nicolas Cesson. Sexologiquement Vôtre, c'est le podcast de l'ATSF. L'ATSF, c'est l'association qui promeut la thérapie sexofonctionnelle qui est un type d'approche sexologique. Dans ce podcast, nous interviewons des professionnels de la santé de tout horizon dont la pratique se rattache au domaine de la santé sexuelle. L'objectif du podcast, aider les sexothérapeutes, les sexologues et les professionnels de la santé à maintenir à jour leurs connaissances pour accompagner toujours mieux les personnes qui souffrent de troubles sexuels. Nous sommes Audrey Mansoulabreuche et Éric Roger. Nicolas Cesson, bonjour.
Bonjour. Bonjour Nicolas, donc si j'ai bien suivi, je te laisse me corriger si jamais je me trompe sur certains aspects, t'es bien infirmier,
oui.
Thérapeute de couple et sexologue à Toulouse.
Absolument.
Très bien. Et donc tu as mené une grande étude qui a été effectuée en collaboration avec Alexandra Cueil, qui est ostéopathe et sexologue, et avec Lucie Ruby, qui est infirmière et sexologue, c'est bien ça? Et donc, tous les trois, vous avez créé l'Observatoire francophone de la sexologie.
Absolument.
Donc, vous avez ensemble mené une grande étude sur la pratique de la sexologie en France. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire de créer une étude comme ça?
Alors, le déroulé de l'histoire, il commence à la fin de mon cursus, en 2022, où je discute avec une collègue de promo. Elle est sage-femme. Elle va être sexologue dans quelques jours, puisqu'on venait de passer notre diplôme. Et elle me dit « qu'est-ce que tu vas faire toi après ça ?» Et je lui dis « moi j'aimerais bien faire de la thérapie de couple ». Elle me dit « ah, je te verrai bien là-dedans, c'est super ». Et j'ai dit « toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle me dit « mais moi j'aimerais bien faire de la thérapie de couple, mais j'ai pas le droit de le faire ». Et je lui dis « pourquoi ?» Elle me dit « parce que je suis sage-femme et qu'en France, les sages-femmes n'ont pas le droit de consulter d'hommes ». Et je lui dis « mais d'accord, mais là c'est plus le métier de sage-femme que tu vas faire, c'est le métier de thérapeute de couple ». Elle me dit « oui, mais… » Donc on commence à avoir une discussion un peu juridique autour de la question. Et je me rends compte que il y a en effet des freins dont on nous en a pas parlé à la fac avant de rentrer dans le cursus, et que les professionnels de la santé qui sont assujettis à une surveillance ordinale, c'est-à-dire qui dépendent d'un ordre, eh bien ont certaines limites. Et donc de là, je vais commencer à fouiller, à discuter avec des vieux sexologues, c'est-à-dire des gens qui étaient là à l'origine dans les années 60-70, et j'essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui a fait que des gens puissent accéder à un cursus et qu'après ils ont des limitations importantes au niveau de l'exercice. Je commence à bouquiner un peu, c'est-à-dire à lire de la bibliographie. Je regarde les études de Alain Gianni, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur l'univers des sexologues en France, mais aussi à l'étranger. Je me rends compte qu'en fait, il y a des spécificités en France qui n'existent pas en Europe, qu'on cite souvent en exemple la Belgique et le Canada en France, enfin surtout le Québec, et qu'en fait, il y a des choses qui vont être très compliquées à mettre en place en France. Quand on analyse un peu les choses, on s'aperçoit que c'est compliqué. Donc, la dernière étude d'Alain Giammi date d'il y a, quand je commence à lire tous ces topos, elle date d'il y a 5 ans, et ce qui me déçoit un peu, c'est le volume de la cohorte. Il y a que 140 personnes qui ont participé. Je me dis quand même, quand on voit le nombre de sexologues qu'il y a en France sur les réseaux, on doit pouvoir faire un peu mieux. Donc, on se réunit avec... on était une petite dizaine au départ, et puis après, il y a des soldats qui sont tombés devant le travail à accomplir. Et donc, avec Alexandra et Lucie, on décide... de créer une association pour porter cette étude, puisqu'en France, pour réaliser une étude, il faut respecter certaines règles. Et donc, le travail commence à ce moment-là. On réalise un premier questionnaire où il y a 250 questions. Donc, on était très, très curieux. Et on s'aperçoit qu'on ne pourra pas poser 250 questions. Et ensuite, on essaye de diffuser ça au plus de sexologues possible. Et on arrive avec 1300 réponses et 1026 dossiers conservés. Donc, voilà un peu le déroulé de l'histoire. Pourquoi on fait ça? Ben parce qu'on pense que la photo de famille n'a jamais été vraiment réalisée. C'est-à-dire que Alain Giammi, il est parti, ce qui est normal. Quand on recontextualise les choses, on s'aperçoit que sa logique, elle était très intéressante. Il part d'un principe qu'en France, il y a 30 ans, les sexologues étaient essentiellement des hommes, essentiellement de formation médicale et un peu âgés, avec une moyenne d'âge assez élevée. Et puis, petit à petit, au fil de ces enquêtes, il s'aperçoit qu'il y a des changements, qu'il y a de plus en plus de sexologues qui ont une formation psycho, qu'il y a de plus en plus de femmes et que cet univers se rajeunit. Donc, il avait déjà mis le doigt sur certaines choses et nous, ben, on n'a fait que l'accentuer parce qu'en fait, on s'est tout simplement rendu compte quand tu vas dans les congrès, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde un peu les fiches sur le web des gens qui exercent ces métiers-là, qu'en effet, il est essentiellement pratiqué par des femmes, essentiellement de formation non médicale aujourd'hui. Et essentiellement en ville, enfin dans des grandes villes en France. Donc voilà, on a construit ce questionnaire, on l'a diffusé et on a eu la chance d'avoir pas mal de réponses, ce qui nous a donné beaucoup de travail d'analyse de data par la suite.
D'accord. Tu dis que on a donc été inspiré par le Québec et la Belgique, mais comment s'est légiféré spécifiquement en France et comment s'est organisée la sexologie alors chez nous ?
En France, il y a rien. C'est-à-dire qu'on est 70 millions de sexologues en France. Sexologue, il n'y a pas de titre. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de titre, il n'y a aucune raison qu'il y ait un encadrement juridique, puisque ce n'est pas reconnu par l'État. Donc, n'importe qui peut prétendre aujourd'hui exercer ses fonctions, que ce soit sexologue, sexothérapeute ou thérapeute de couple. Alors, là où il y a un problème, c'est que certains centres de formation laissent penser, en lisant la fiche de la formation, qu'il existe quelque chose, mais en fait, il n'existe absolument rien du tout. C'est-à-dire que si vous allez sur France Compétences, qui est le site internet qui classifie l'ensemble des professions reconnues par l'État français, eh bien, vous ne trouverez pas sexologue, et ni sexothérapeute, ni thérapeute de couple. Donc, ça veut dire que à partir du moment où l'État français ne reconnaît pas une fonction, elle n'a aucune légitimité à rédiger des textes en fonction avec de ces professions. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des aberrations. Je vais en citer une qui est compliquée à entendre, mais qui est une réalité. C'est que vous pouvez très bien être délinquant sexuel aujourd'hui en France, sortir de prison et exercer la sexologie. Il n'y a pas de limite à ça.
Michel Pellicot, en sortant de prison, il peut se présenter comme étant sexologue et personne ne pourra l'en empêcher si jamais il y en a envie.
Exactement. Et vous pouvez vous retrouver avec des gens qui n'ont absolument aucune formation. Vous allez sur Doctolib, vous tapez compétences en sexologie, sexologue, sexothérapeute, vous allez tomber sur des pages et des pages et des pages de thérapeutes, enfin de personnes très bien formées sur le plan médical ou paramédical, mais qui n'ont pas fait une seule journée ou une seule heure de formation dans leur vie. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, mais je ne vais pas taper sur les médecins généralistes, pas du tout, beaucoup de respect. Vous pouvez très bien être médecin généraliste et indiquer que vous êtes spécialisé aussi en pédiatrie, également en gérontologie, en acupuncture, en homéopathie, ce que vous voulez, et vous pouvez très bien mettre sexo, puisque de toute façon, on ne va pas vous demander si vous avez fait une formation, puisque ça n'est pas reconnu. Donc vous allez, les sexologues correctement formés en France vont se retrouver en concurrence avec des gens qui n'ont pas fait une heure de cours ou pas fait une heure de stage de leur vie, et qui vont expliquer qu'ils sont compétents. Et donc, ils vont évidemment recevoir des patients. Ce dont on parle assez peu en sexologie en France, c'est-à-dire que je ne trouve pas que le patient soit au centre des débats. En tout cas, moi, quand j'écoute les interventions, j'ai l'impression que ça passe au second plan, ce qui est fort dommage, selon moi. Et on se retrouve aujourd'hui dans une architecture compliquée à lire pour le patient, qui ressemble un peu à celle des prises en charge psychothérapeutiques il y a une trentaine d'années en France. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans en France, quand vous vous étiez pas très bien dans votre peau et que vous vouliez aller voir quelqu'un pour vous faire aider, vous ne saviez pas vers qui vous tourner. Psychothérapeute, psychologue, psychiatre, psychanalyste, voilà. Dans le champ psy, vous avez beaucoup de gens qui sont spécialisés, mais vous n'avez pas vraiment le cursus qu'il y a derrière. Et donc, clairement, quand vous êtes un patient, ben, vous êtes un peu perdu. Et c'est, à mon avis, très clairement ce qui se passe aujourd'hui pour les patients qui ont un trouble sexuel ou un trouble de la dynamique du couple. C'est compliqué d'arriver à comprendre qui fait quoi et comment je peux me faire aider.
Et du coup, toi qui as pas mal étudié la question, comment ça se fait justement qu'il y ait à ce point-là une absence d'organisation, une absence de structure dans la pratique en France ?
Alors, c'est historique. Quand les choses fonctionnent... Alors, bon, déjà, on parle d'un sujet complètement tabou. Donc ça, il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui rédigent la loi en France sont des juristes essentiellement, ou de formation juridique. C'est pas forcément des gens qui sont très open sur le fait de parler de sexualité ou de couple. Ça reste des... Alors, pour nous, sexologues, c'est absolument pas tabou, et c'est vrai que quand on nous le dit, bon, ça nous fait tiquer un peu parce que nous, on en parle toute la journée, mais clairement, dans la population générale, et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de comptes Instagram qui parlent de cul toute la journée que forcément, dans la société, c'est détabouisé. C'est pas vrai. Le premier truc que vous allez aborder avec votre voisin quand vous allez chercher le courrier, c'est pas forcément les problématiques sexuelles. C'est probablement la gestion des poubelles ou les gosses, ou enfin, je sais pas, peu importe. mais clairement pas la question de la sexualité. Donc ça reste tabou, et donc sur ce tabou s'est construit toute une identité de la part de thérapeutes. Ensuite, il faut comprendre aussi que les premiers sexologues en France étaient quasiment tous de formation soit médicale, soit psychologue. C'est pas... Quand on recontextualise les choses, dans les années 70, c'était très compliqué pour eux de commencer à exercer parce qu'ils étaient, les médecins étaient ultra traqués par le Conseil de l'Ordre, et c'est normal. Un truc nouveau, un peu tabou, pas du tout libéré sur le plan de la sexualité en France dans les années 70, hein, c'était vraiment complètement nouveau. Donc c'était compliqué pour eux d'arriver à exercer, donc merci à eux d'avoir fait cet effort et d'avoir essayé de libérer la parole et de pouvoir ouvrir quelque chose. Les psychologues ont historiquement souvent tendance à ne pas trop parler de ce qu'ils font, hein, c'est quelque chose qui reste encore le secret de la consultation. Donc il y a peut-être un peu de tout ça qui s'est joué. Et puis après, bah on arrive dans les années 2000 où on commence à parler de la sexualité. Dans les années 2010 où on commence à avoir de plus en plus de contenu sur le web qui parle de la sexualité. Et on se retrouve en 2020, un peu étonné de voir que finalement des gens qui n'ont pas forcément une formation très aboutie sur le plan académique, se mettent à parler de sexualité de façon souvent très pertinente et très intéressante, en libérant la parole, et on pourra en parler de plein de gens, mais des fois sur un versant un peu plus critiquable, où le fondement scientifique est erroné ou absent, avec des idées un peu étonnantes, qui sortent d'on ne serait pas trop où. Mais finalement, comme il n'y a pas de reconnaissance de la sexologie, il n'y a pas de raison d'établir une règle. Et puis, je pense que l'État aussi, l'État souverain en France, est complètement débordé par des missions régaliennes qu'il a essayé de déléguer à des régions ou à d'autres organismes, et ça se passe pas forcément très bien. On voit qu'il est complètement dépassé. Donc, la priorité, c'était clairement pas de s'occuper de ça. Dans l'ordre, je pense que quand on est président de la République aujourd'hui, la priorité, c'est la guerre en Ukraine, c'est la macroéconomie, oui, c'est le travail, c'est clairement pas de créer un titre, et c'est clairement pas de créer un cadre d'exercice. Oui. Je pense pas.
Et puis c'est aussi que des troubles sexuels, ça provoque de la détresse, mais les gens restent des citoyens fonctionnels, ils continuent à travailler. On ne meurt pas, ou en tout cas pas vraiment, ou en tout cas rarement, d'un trouble sexuel.
Absolument. Ça reste invisible. C'est tabou. Donc c'est un peu comme les hémorroïdes il y a 30 ans, quoi. On n'en parlait pas. Alors je dis pas qu'il faut parler toujours des hémorroïdes, mais aujourd'hui, si vous avez un problème hémorroïde, vous savez que vous pouvez le consulter à un chirurgien spécialisé. Aujourd'hui, quand vous avez un trouble sexuel, vous allez sur Internet et vous allez trouver à peu près tout et n'importe quoi.
Et de la même façon, il n'y a pas d'association de... Moi, par exemple, ma spécialité, c'est éjaculation prématurée. Il n'y a aucune association d'hommes qui souffrent ou qui ont souffert d'éjaculation prématurée. Et c'est pareil pour les autres troubles sexuels.
Et oui, peut-être... c'est tabou. On commence à avoir... il y a des associations depuis longtemps sur certains troubles gynécologiques ou troubles urologiques. Mais avec l'aspect sexo, il y a encore un frein. Donc, il y a déjà beaucoup d'associations, de syndicats ou de sociétés savantes en sexo. Moi, je pense qu'il y en a trop. Le millefeuille est déjà trop important. Mais en effet, les associations de patients, il n'y en a pas beaucoup.
Attends, c'est pas évident pour eux d'en parler non plus. Hein.
Parce que c'est toujours tabou. Voilà, c'est compliqué de s'afficher à l'écran et de dire j'ai un trouble érectile et j'ai été soigné par telle personne et ça a bien fonctionné et aujourd'hui je vais mieux. Voilà, ça reste quelque chose de difficile. Le témoignage reste compliqué.
Oui, c'est pas souvent le bouche à oreille qui les amène chez nous.
Tu as commencé à parler tout à l'heure de la formation des différents praticiens. Alors toi qui as fait du coup cette étude actuellement en France, c'est quoi les différents profils et les différentes formations que ont suivi la plupart des praticiens en France?
Alors au niveau des formations, c'est très hétéroclite et c'est quelque chose qui, à mon avis, va commencer à poser de très gros problèmes. C'est-à-dire que nous, on a réussi à recenser 70 centres de formation pour 110 cursus différents. C'est... Quand on voit qu'il y a à peu près, j'estime qu'il y a à peu près 5000 thérapeutes qui font de la thérapie de couple, de la sexothérapie ou de la sexologie en France, grosso modo. C'est un peu à la louche parce que ça aussi, à partir du moment où le titre n'existe pas, comment on fait pour les compter? En fait, on ne peut pas les compter. On ne sait pas combien on est. C'est même ça, même une question aussi simple que celle-là, personne n'est capable d'y répondre. Donc, quand on travaille un peu sur le sujet, qu'on fouille un peu sur les réseaux et qu'on essaye de voir à peu près comment est structurée la sexologie, moi, je pense qu'il y a à peu près 5000 thérapeutes aujourd'hui en France. Donc, pour 5000 thérapeutes, il y a 110 cursus. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça interpelle que moi. Moi, je me poserai quand même beaucoup de questions là-dessus. Il faut comprendre que le business de la formation continue en France, c'est quelque chose d'assez florissant. Donc, il y a intérêt à créer des formations maintenant dans une certaine limite. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on apprend? Donc, pour répondre à ta question, il y a des gens qui sont formés en 3 heures, il y a des gens qui sont formés en 3 jours, il y a des gens qui sont formés en 3 mois, et il y a des gens qui sont formés en 3 ans. Alors, est-ce que c'est la formation de 3 ans est meilleure que celle de 3 heures? Je ne sais pas, mais elle doit être un petit peu plus complète, ça, c'est, on ne peut pas trop en douter. Donc, et au niveau des différents types de professionnels qu'on peut rencontrer, nous, on a repéré, enfin, en tout cas, dans notre étude, il y a un peu plus de 16% de psychologues, un peu plus de 16% d'infirmières, de formation initiale infirmière, il y a un peu plus de 15% de formation médicale, où là, c'est moite-moite, vous avez moitié de généralistes et moitié de spécialistes. Il y a un peu plus de 12% de sages-femmes et ensuite il y a 12% de praticiens qui n'ont aucune formation initiale en santé ou sur le plan social. Et ensuite, il y a plein de petits groupes, sous-groupes, qui sont difficiles à énumérer parce que on se perd dans des chiffres. Donc là aussi, c'est très hétéroclite. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, en France, il y a plus de 50% des sexologues ou des thérapeutes de couple qui ont une formation initiale en santé ou en sociaux. Voilà, pour faire simple, pour essayer de donner une image assez claire de la situation. Et là aussi, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait médecine qu'on est moins bon sexologue, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On donne juste une photo de famille de l'existant aujourd'hui, et après, comment on construit les choses derrière, on verra bien.
Et sur cette photo de famille, on a vu que dans les années 60-70, enfin, dans le début de la sexologie en France, on avait plutôt des hommes et plutôt assez âgés. Là, sur la photo de famille, ça serait représenté comment? C'est quel type d'âge, quel type de... Et où exercent en fait ces sexologues en majorité?
Alors aujourd'hui, l'âge moyen des sexos en France, c'est 45 ans. 85% des répondants sont des femmes. C'est à peu près comme les professions d'infirmière ou de psychologue, parce que c'est des professions qui sont mieux connues. Donc c'est vrai que quand on va à l'hôpital ou qu'on se fait soigner par une infirmière, on voit souvent des femmes et rarement des hommes. C'est souvent le cas aussi chez les psychologues. Donc on est à peu près au niveau, au même ratio chez les psychologues. Ce qu'on peut dire également, c'est que la majorité travaille dans un tissu urbain. Il y a très peu de praticiens et de praticiennes en rural. Et que globalement la moitié des gens sont formés à une formation qui est peut-être la plus connue en France, mais pas forcément, c'est celle qui s'appelle le diplôme interuniversitaire de sexologie qui se fait à la faculté de médecine dans, maintenant je crois qu'il doit y avoir 10 centres en France, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je revoie un peu mes tablettes. Voilà, ça c'est les grandes... et pardon, je l'ai pas dit, il y a 68% des sexologues en France qui travaillent, 65% pardon, travaillent en libéral. Voilà, 45% travaillent dans les très grandes agglomérations. Donc, c'est assez concentré pour essayer de donner une image.
Et est-ce que tu sais si, parmi ces différents praticiens, quelle est la partie d'entre eux qui travaille à plein temps uniquement sur la sexologie, ou bien, étant donné qu'il y en a beaucoup qui sont des professionnels de santé ou du social et qui ont une formation autre, pour lesquels la pratique de la sexologie, en fait, c'est un peu un à côté, en tout cas en termes de volume horaire dans leur travail par semaine?
Alors ça, c'est une vraie question et qui est hyper intéressante. Mais il y a une question sous-jacente, c'est quelle est la raison qui ferait que ces gens-là travaillent moins en sexo ou en thérapie de couple? Donc, si c'est une question de revenus, ça s'explique pour les libéraux. La question des revenus ne s'explique pas chez les salariés, par exemple. Donc, comme on a quand même 40% de gens qui sont salariés de structures publiques ou semi-publiques ou privées, on peut regarder un peu comment ils exercent aussi. En fait, on s'aperçoit que il y a une majorité de gens qui vont exercer ces activités à temps partiel, c'est-à-dire que ça va représenter un faible pourcentage de leur activité. Donc, ça, on l'a mesuré pour les salariés, le pourcentage de l'activité. Donc, la majorité des salariés qui exercent la sexo l'exercent à un faible rendement. D'accord ? Donc, ça, c'est important à noter. Pour les libéraux, l'indicateur que l'on a pris, ce sont les revenus. Donc, on a comparé leurs revenus globaux d'activité libérale aux revenus spécifiquement de ces trois activités. Et là, on voit qu'il y a un énorme delta. Alors, ce delta, comment on l'explique ? Est-ce que c'est parce que c'est pas intéressant sur le plan financier ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de demande de la part de patients ? Est-ce que c'est parce que c'est compliqué à organiser ? Donc là, il y a plein de questions qu'il faudrait reposer et qu'on avait posées dans notre premier questionnaire, mais qui était beaucoup trop long, donc on voulait pas lasser les gens. Donc, on a fait une première approche. Donc là, il y a des hypothèses de travail et... ce serait bien que d'autres instances se lancent sur une prochaine enquête.
Et même s'il n'y a pas de réponse, c'est quoi du coup les hypothèses que vous avez formulées?
Alors les hypothèses, il y en a plusieurs. Il est évident qu'aujourd'hui en France, quand vous avez une activité libérale conventionnée, C'est un peu du salariat déguisé. Donc, c'est le rendement financier est plus intéressant que si vous avez une activité libérale non conventionnée. En clair, on est encore dans une société où le patient n'a pas l'habitude de sortir le chéquier pour se soigner. Il a l'habitude de sortir sa carte vitale. Voilà, ça, c'est une vraie donnée. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ceci dit, quand on analyse vraiment les choses en détail et qu'on se penche sur certains dossiers de nos répondants, vous avez quand même certains professionnels qui ont une activité libérale conventionnée et qui conventionnent l'activité de la sexologie, ce qui est interdit, mais qui le font. Donc finalement, ces gens-là, ils n'ont pas vraiment de frein à l'exercice. C'est-à-dire que le patient, en tout cas, va être remboursé de sa séance. Ou en tout cas, donc, est-ce que ces gens-là exercent un peu plus que les autres? Oui, mais majoritairement, enfin, est-ce qu'ils ne font que ça? Non.
Donc, techniquement, c'est par exemple un kiné qui s'est formé à la sexologie et qui va dire, je vous prends pour une séance, mais pour l'assurance maladie, je vais présenter ça comme étant une séance de kiné.
Exactement. Ça peut arriver chez les médecins généralistes, puisque l'activité de médecine générale ne ressemble en rien à une sexothérapie. Mais ça peut se faire. Après, jouer avec la règle, c'est un peu tous les jours, partout et tout le temps. On est un des pays les plus judiciarisés du monde, enfin, où il y a le plus de règles. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est compliqué d'arriver à traverser la rue. Donc ça peut exister. Ça peut exister pour les sages-femmes, ça peut exister pour les médecins généralistes, ça peut exister... Mais ça peut exister aussi dans les structures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes urologue ou sage-femme, vous ouvrez une consultation de sexo dans votre hôpital, enfin dans l'hôpital qui vous accueille. Que va facturer l'hôpital ? Ben rien. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de règle, donc il n'y a évidemment pas de lettre clé, donc il n'y a pas de facturation à proposer à la Sécu. Pour le coup, ça se fait. C'est-à-dire qu'on va imaginer que c'est une consultation d'urologie ou une consultation de sage-femme, enfin de suivi de grossesse, enfin voilà. Donc on va s'arranger avec la règle. Et cet arrangement, il pose problème parce que c'est très inéquitable entre professionnels correctement formés, mais c'est très inéquitable aussi dans toute l'organisation de la sexologie, quoi. Donc ça pose un problème. Et ça pose un problème d'accès aux soins aussi pour les patients, puisqu'il y a des patients qui ne vont pas arriver à payer le tarif d'une consultation. Il y a d'autres qui vont comprendre que finalement, en passant par une structure ou en passant par un professionnel conventionné, eh bien, ils vont pouvoir accéder à des soins. Donc voilà, il y a un manque de clarté, il y a un manque de lisibilité. Et nous, c'est ce qu'on met en avant depuis 4 ans et on essaye de travailler là-dessus pour faire en sorte que demain, ce soit un petit peu plus clair pour tout le monde.
Je pratique l'hypnothérapie, par exemple, et je sais que certains sont remboursés pour leurs séances d'hypnose, mais pas pour les séances de sexologie. Donc, ça m'arrive régulièrement, effectivement, de mentionner sur la facture hypnose parce que les mutuelles parfois remboursent.
C'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a un effort des mutuelles. Bon, après, je vais pas taper sur les mutuelles, mais elles sont rarement déficitaires et elles ont quand même un patrimoine foncier énorme en France. Donc, si elles le font, c'est qu'elles peuvent le faire. Je ne sais pas de combien elles ont augmenté leurs tarifs pour permettre à leurs clients ou à leurs patients de bénéficier de certains remboursements. Mais on le voit, c'est une vraie démarche de la part des mutuelles depuis une dizaine d'années. Moi qui ai une activité conventionnée, je vois bien que les mutuelles des patients, parce que j'ai accès au taux de remboursement en voyant leur carte, je vois bien que les mutuelles remboursent de plus en plus de soins dits non conventionnés ou en honoraires libres. Donc, il y a un vrai effort des mutuelles. Et c'est peut-être un axe de travail. Moi, j'y crois pas trop, parce que je vois ce que ça a donné dans d'autres pays. Je m'aperçois qu'en fait, ça n'a pas permis de légiférer sur l'activité. Mais les praticiens sont contents, parce que finalement, ils ont un peu plus de demandes, puisqu'il y a un peu plus de remboursement de la part des mutuelles auprès des patients.
Très bien. Et on a commencé à parler de volume d'activité, mais également la question de la rémunération. En raison du fait que certains sont salariés et que ça peut provoquer, ça peut parfois participer uniquement à une partie du chiffre d'affaires et que même les libéraux, il peut y avoir parfois des complications pour vraiment délimiter ce qui fait partie de la pratique sexologique ou non. Donc c'est une question qui est un peu compliquée, mais dans ton étude, quelle est la rémunération moyenne qui a été constatée pour les praticiens en sexologie?
Elle est très basse. Alors, on n'a pas de rémunération moyenne à communiquer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 500 dossiers sur les 1100 dossiers qu'on avait retenus, où on avait très clairement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui nous avaient été confiées par ce groupe sur l'activité libérale. Donc, en fait, on a simplement comparé, enfin, c'est pas simplement, parce qu'on a fait beaucoup, beaucoup d'analyses, et on a essayé d'extraire ce qui était le plus lisible pour les gens qui pouvaient nous écouter. Donc, globalement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 68% des libéraux en activité sexo ou thérapie de couple en France qui gagne moins de 15 000 euros brut par an dans cette activité. Et il y a, ça c'est beaucoup plus inquiétant, 43% qui gagnent moins de 7 500 euros brut par an en sexo, c'est-à-dire des clopinettes. Puisque 500 euros de revenus bruts par mois, en sachant que c'est essentiellement des professionnels qui travaillent dans des grandes villes, je ne sais même pas comment vous faites pour payer votre loyer professionnel. Ça me semble complètement illusoire. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'il y a en moyenne 15% des sexologues libéraux qui gagnent convenablement leur vie, et il y a moins de 2% des sexologues ou thérapeutes de couple libéraux qui ont des revenus très confortables.
Est-ce que, à ta connaissance, il y a des sexologues qui travaillent soit pour les Cégides, soit pour les cours, les EVARS, par exemple, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, par exemple?
Oui, c'est très compliqué d'arriver à comprendre les revenus des gens, déjà parce que là aussi il y a un tabou en France, donc c'est difficile d'arriver à communiquer là-dessus, parce qu'on aurait très bien pu nous identifier comme des traqueurs, mettant en scène quelque chose, enfin bon, on a reçu des critiques, hein, donc ça s'est pas fait tout seul, il y avait quand même des opposants. Nous, c'était pas notre objectif, nous vraiment l'objectif c'est de faire une photo de famille et d'essayer de proposer la photo la plus simple possible de ce qu'est la sexologie aujourd'hui en France, enfin en 2024. Puisqu'on a fait le traitement de data en 2025. Donc, au niveau des revenus, il y a une deuxième difficulté, c'est que les gens ne sont pas à l'aise pour parler d'argent en France, et on a une éducation financière en France qui est quand même assez réduite. Moi, je parle régulièrement avec des professions libérales, et en fait, ils arrivent à confondre leur chiffre d'affaires et leur revenu net, donc leur revenu imposable, donc c'est pas si facile que ça. Mais globalement, dans les dossiers qu'on a retenus, on ne trouvait pas beaucoup d'incohérences, c'était assez clair pour les gens, donc on a réussi à structurer les choses. Ce que tu dis est très vrai, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui ont une double, triple, quadruple, quintuple activité, qui vont travailler dans un centre, dans un Cégide, à l'hôpital, dans une clinique. Avoir un premier cabinet en ville, un deuxième cabinet en ville. Il y a des gens, moi j'ai vu des thérapeutes qui ont 10 cabinets, hein, y compris à l'étranger, donc je ne sais pas comment ils font, mais c'est intéressant. Ils ont une offre de soins qui est pléthorique. Ce qu'on remarque également, ça c'est hyper intéressant, c'est qu'il y a une grande dichotomie entre le planning ressenti par les professionnels et leurs revenus. C'est-à-dire qu'on a des gens qui gagnent très peu d'argent, mais qui nous disent qu'ils sont très satisfaits de leur planning au niveau de la prise de rendez-vous. Donc ça c'est hyper intéressant parce que c'est rarement le cas chez les professions libérales. La plupart des professions libérales conventionnées sont toutes débordées. Moi, j'en connais pas qui soient pas débordés. Moi, je suis débordé comme infirmier libéral. Voilà. Des appels tous les jours pour des choses que je suis obligé de refuser parce que je peux pas les caser dans mon activité de tous les jours. Clairement, mon téléphone sexo, il sonne très rarement. C'est pas si facile que ça de lire ces datas, mais le travail d'analyse qu'on a fait nous semble à la fois cohérent et présenter des données qui sont solides. Maintenant, on est tout à fait capable d'entendre qu'on s'est planté si les gens nous amènent des données différentes.
Moi, je me suis demandé si ça correspondait pas à une partie de la population plutôt féminine qui a un conjoint qui gagne correctement sa vie, et de la même façon que dans n'importe quel village qui devient un peu gros, t'as une galerie d'art où tu te demandes comment est-ce que la galerie d'art vivote, et en fait quand tu te penches un peu sur le détail, tu t'aperçois qu'en fait ça fonctionne à perte, mais que ça permet tout simplement d'avoir une activité sociale, mais pas une activité vraiment rémunératrice pour la personne qui tient la galerie d'art. Je me demande si une partie des cabinets de sexologie en France, c'est pas un peu la même chose, quoi.
Alors oui, clairement, il y a un effet marotte, hein, c'est-à-dire que c'est un univers qui stimule beaucoup les praticiens. Nous, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a une majorité de praticiens qui sont pluriformés, c'est-à-dire qu'ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 formations en sexo ou en thérapie de couple. Donc on a affaire à une population qui est très motivée. Donc quand vous êtes très motivé, même le frein économique, vous pouvez intellectuellement arriver à le faire sauter. C'est-à-dire que pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, vous allez vous faire mal en ne gagnant pas un centime, mais vous allez quand même proposer des rendez-vous pour essayer de proposer aux gens de les soigner, parce que c'est vrai que c'est un univers qui est très intéressant et qui est parfois mal abordé en société. Donc la question du revenu du conjoint, en effet, elle est très très pertinente. Moi, je voulais la poser. Bon, on était obligé d'enlever certaines choses, donc on n'a pas posé cette question. Déjà parce qu'elle était un peu taboue et puis qu'elle aurait pu être mal perçue par une population essentiellement féminine, se disant très indépendante et s'apercevant que finalement, quand même, dans le revenu total, bon, ben peut-être que monsieur, c'était plus que 50%, quoi. Je l'ai pas dit, mais on a essentiellement des couples monogames dans la cohorte, et on a essentiellement des couples hétérosexuels. Donc, on est en plein dans la norme. Mais c'est des choses qui peuvent être comparées à une population générale. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et clairement, la question du revenu du conjoint ou de la conjointe était une question, à mon avis, c'est une question qu'il faudra poser. Je l'ai pas dit, mais évidemment qu'il y a un biais de recrutement dans notre étude. Toutes les études connaissent un biais de recrutement. Toutes les études en ligne connaissent un biais de recrutement. Et celle-ci, évidemment, qu'elle a un biais de recrutement, c'est-à-dire qu'on a probablement affaire à une population qui est un peu plus frustrée, c'est-à-dire que les gens qui ont réussi ont probablement moins répondu à l'étude que les gens qui sont dépités de leur situation, ça c'est une évidence. Je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas de différence de revenus entre les hommes et les femmes dans notre étude. Il n'y a quasiment pas de différence de revenus entre les centres de formation, c'est-à-dire que où que vous formiez, vous aurez à peu près les mêmes revenus. Il n'y a pas de différence de revenus non plus entre ceux qui exercent en ville et ceux qui exercent à la campagne. Il n'y a pas de différence de revenus entre ceux qui exercent depuis 6 mois et ceux qui exercent depuis 5 ans. Il y a une différence de revenus quand vous exercez depuis plus de 10 ans, mais c'est vraiment minime. C'est-à-dire que vous avez des gens qui exercent depuis 20 ans et qui ont des revenus très modestes. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Oui, bien sûr. Très bien.
Au Canada, on peut se former à la sexologie directement après le bac, sans aucun prérequis dans le domaine de la santé sexuelle en général. Qu'est-ce que tu en penses et quelles sont les formations qui prévalent finalement en France ?
Alors, je sais qu'il existe un fantasme chez certains sexologues qui serait de transposer l'organisation de la sexologie canadienne à la France. Moi, je pense que c'est un doux rêve pour plein d'éléments que je pourrais développer, mais qui vont peut-être pas être hyper intéressants aujourd'hui. Ça coûterait trop cher, ce serait trop compliqué, ce serait beaucoup trop long. Et il y aurait un rattrapage énorme à faire avec les gens qui sont déjà formés. Donc, ça me paraît pas adapté. Moi, je suis plutôt partisan des solutions faiblement coûtantes en temps, en énergie et en argent. Je pense qu'on peut arriver à faire de très belles choses comme ça. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours, même si c'est pas facile. Donc, la formation au Québec, le fait de se former après le bac, ça me choque pas. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui exercent la sexo en France aujourd'hui qui ont pas le bac. Donc ça me choque pas. Je trouve que c'est plutôt les choses sont bien structurées au Québec. Il y a une histoire alors aussi, il faut recontextualiser les choses. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette fac qui était essentiellement, qui formait essentiellement des psychologues? Comment les choses ont été renversées? Il y a une histoire. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est présenté en France comme tout beau, tout propre, magnifique. Il y a quand même là aussi des choses qui ont été difficiles pour certaines personnes, notamment au niveau de certains enseignants. Alors en France, qu'est-ce qui prévaut comme formation? Bon, je l'ai dit, la formation la plus citée dans notre étude, c'est le diplôme interuniversitaire de sexologie humaine, fait dans 10 facs en France. Est-ce que c'est la meilleure formation? Moi, je sais pas.
C'est au moins la plus reconnue, c'est aussi parce que la plus grosse société savante, l'AIUS, est organisée autour de cette formation.
Tout à fait. Là aussi, il y a un historique. Qui de l'œuf ou de la poule était là le premier? Est-ce que c'est la formation ou l'AIUS? Voilà. Enfin, ce qui s'appelait pas l'AIUS d'ailleurs à l'époque. Là aussi, il y a une histoire assez torturée quand même dans les instances en sexo en France. C'est compliqué. Hein, ces gens-là ne se parlent pas tous. Ils ont pas tous une même vision. Ils ont pas même accès de travail, même pour la reconnaissance. Enfin, la création d'un titre ou la reconnaissance de l'activité. Tout le monde n'est pas complètement d'accord. Les chemins sont pas les mêmes. Enfin, les chemins pris sont pas les mêmes. Globalement, on peut dire que la sieste est faite par tout le monde depuis 20 ans, puisque Jamy a écrit il y a 15 ans qu'il fallait faire quelque chose. Bon, 15 ans après, il se passe absolument rien chez ces gens-là, donc ça, c'est assez préoccupant. Après, au niveau des formations en France, pour arriver à les comparer, comment on fait? Ben, on parle avec des gens qui en ont fait plusieurs. Voilà. Donc, dans notre étude, il y a quand même une quinzaine de personnes qui ont fait 2, 3, 4 formations en France et à l'étranger, des formations solides, publiques, privées, en France, en Belgique, au Luxembourg et au Québec. Donc là, on peut parler avec des gens intéressants. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont quelque chose à nous apporter sur qu'est-ce qu'il faut faire, enfin, comment il faut former les gens. En fait, c'est une vraie analyse générale de qu'est-ce qu'ils ont appris, où, à quel moment et qu'est-ce qui a été le plus pertinent. Quand on analyse un peu les réponses de notre questionnaire aussi, il y avait une question sur est-ce que votre première formation en sexo vous a permis d'obtenir tous les outils nécessaires pour exercer une activité clinique? Bon, ben majoritairement, c'est pas le cas. Donc là aussi, il faut peut-être que les centres de formation se remettent en question et lisent notre étude. Et je les invite aussi à interroger leurs étudiants de façon très simple. qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Alors je dis pas que les étudiants doivent, parce que j'ai vu ça dans ma promo, c'est particulier. On est une société, enfin on est en France, donc les gens gueulent tous. Quand il faut se mettre à bosser, c'est plus compliqué. Donc moi j'ai vu ça dans ma promo, c'est-à-dire que les gens ils étaient pas contents de tel prof, de telle façon d'aborder les choses, de la question, de trucs machin. Moi je trouvais que tout était intéressant. Et puis si j'avais un trou dans la raquette, ben j'essayais d'aller trouver quelque chose dans un bouquin et éventuellement de discuter avec un prof à la fin ou d'essayer de m'instruire autrement. Donc on va pas tout vous donner dans votre centre de formation, c'est aussi à vous à lire des bouquins, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, pourquoi, l'histoire. On a complètement changé de paradigme en sexo. La pilule, c'est les années 50. La généralisation de la pilule en France, c'est début des années 80. On est passé d'une sexualité reproductive à une sexualité récréative. Donc, évidemment que les troubles ne sont pas les mêmes. La pathologie du couple n'est pas la même. Donc, la création du couple n'est pas la même. Donc, tout ça reste à contextualiser. Donc, on ne peut pas tout avoir dans un centre de formation. C'est pas possible. C'est un univers qui est beaucoup trop large, beaucoup trop riche pour pouvoir tout avoir dans une formation. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Audrey? Pas complètement. Donc, la question sous-jacente, c'est demain, je veux me former en sexo, où je vais? Eh ben, bon courage.
Et toi, tu es issu de quel centre de formation, toi?
Moi, j'ai fait le diplôme interuniversitaire à la faculté de Toulouse, puisque je suis de formation paramédicale et que j'ai accès à cette formation. Et qu'au début, on m'a dit, vous finirez tous sexologues. On est tous sexologues en France, puisque sexologue, ça n'existe pas. Mais ça, je l'ai appris à la fin.
Tu trouves que tu avais tous les outils nécessaires à la fin de ta formation pour ta...
Non. Non, clairement pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer dans ce cursus. J'ai fait des propositions là aussi. Enfin, nous avons fait des propositions. Je ne sais pas si ça sera entendu. Après, il faut comprendre aussi comment vivent ces structures. C'est-à-dire que il n'y a pas des budgets de dingue. Il y a beaucoup de profs qui sont pas payés. Il y a beaucoup de profs résidents. Bon, ce que j'appelle les profs résidents, c'est des profs qui sont très investis et qui font beaucoup d'heures d'enseignement. Parce que vous avez des gens qui viennent une heure ou deux heures dans la formation, et bon, ces gens-là, je ne sais pas s'ils sont payés ou pas, mais on va dire que l'investissement n'est pas le même. Quand vous faites 20, 40, 50, 100 heures de formation sur une formation de 400 heures, bon, ben là, vous êtes quand même très investi. Il y a des gens qui sont quand même assez âgés, qui ont une super expérience clinique. Hein, c'est hyper enrichissant de comprendre comment ça se passait il y a 20, 30 ou 40 ans. Mais c'est des gens qui sont un peu fatigués. C'est des gens qu'il va falloir remplacer. C'est des gens qui ne sont pas payés. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à revoir. Alors moi, je vous parle de ce que j'ai vécu, mais bon, pour avoir des contacts un peu dans toutes les Fac de France et maintenant dans beaucoup d'écoles privées en France, bon ben globalement vous apercevez que c'est un fonctionnement qui est très généralisé. Donc là aussi il y a un mal qu'il faut peut-être traiter, mais il faut pas trop en parler. Donc c'est dommage parce que moi j'ai coutume de dire que quand on parle pas des trucs, ils se résolvent pas tout seuls quoi. Donc il faut peut-être aborder ça avec les structures. Il faut peut-être que les structures les centres de formation se regroupent. Il faut peut-être œuvrer pour un gros programme commun. Il faut peut-être avoir plus de lisibilité aussi. Moi, je pense déjà qu'il y a un gros effort de communication de la part des centres à faire auprès des étudiants en disant le métier que vous allez faire demain n'est pas reconnu, vous allez mal payer, vous allez mal gagner votre vie et ça va pas être facile. Voilà, il faut être tout à fait lucide là-dessus. Des gens, moi, ce que j'ai écrit dans le topo, c'est les gens que vous entendez à la radio, que vous voyez à la télé, qui ont écrit des bouquins, qui ont plus de 60 ans aujourd'hui, qui ont fait une carrière en sexo ou en thérapie de couple. C'est une anomalie statistique. Hein. Ce sera pas vous. Ou alors vous avez beaucoup de chance, ou alors vous êtes des cadors. Mais le statut général, c'est que vous resterez probablement très peu connu. Ça, c'est pas très grave. Vous aurez peu de consultations. Ça, c'est pas très grave non plus, mais ça peut poser un problème au niveau des revenus. Et vous aurez du mal à en vivre. Donc, malgré une, deux, trois, quatre, cinq formations. Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à se former, quoi.
Il y a des gens qui sont passionnés par ça.
Tout à fait.
Concernant les formations, il y a aussi un point, c'est qu'en fonction du cursus qu'on a eu avant cette formation, il y a certaines formations qui peuvent être accessibles ou non. Toi, tu as une formation d'infirmier, ça veut dire que tu as accès à toutes les formations sexologiques qui existent en France. Moi, par exemple, j'ai pas du tout de formation dans un domaine de la santé, puisque avant, j'ai travaillé dans l'informatique, absolument rien à voir. Et par exemple, je peux pas rejoindre le DU de sexologie, et même parmi les formations privées, il y a beaucoup de formations privées qui sont fermées. Donc là-dessus, il y a aussi une difficulté. Et inversement, j'ai en revanche des grosses facilités dans ma pratique que toi, en tant qu'infirmier, tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais je te propose qu'on entre beaucoup plus dans les détails là-dessus. C'est que quand on est infirmier, quand on est sage-femme, quand on est kinésithérapeute et qu'on souhaite exercer la sexologie à laquelle on a été formé, là par contre, on se retrouve avec des gros bâtons dans les roues.
Absolument. Ce que tu dis est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a une façon de verrouiller la formation en France qui est très inéquitable, c'est-à-dire qu'on va proposer à des gens qui sont essentiellement issus de formations médicales, paramédicales ou sociaux, de se former en sexo. Mais ces gens-là, quand ils vont sortir, ils vont pas pouvoir exercer, pour plus de 60% d'entre eux, même quasiment 70% d'entre eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux types de formations en France, celles qui sont accessibles uniquement, ce que tu disais, aux professionnels de la santé, et celles qui sont accessibles à tout le monde, c'est-à-dire les professionnels de la santé et le reste du monde. Donc ça, c'est pour schématiser. Et ensuite, dans l'exercice clinique, quand on est libéral, puisqu'on a vu que c'était l'essentiel de notre groupe, tu as deux grands groupes qui s'opposent également. Tu as le groupe des gens qui dépendent d'un ordre, donc kiné, infirmier, sage-femme, médecin, j'espère que j'oublie personne, et le reste du monde, c'est-à-dire des gens qui dépendent de fédérations, d'associations ou de rien du tout, et qui, ces personnes-là, peuvent exercer librement. Et dans ces personnes-là, tu vas avoir des personnes formées ou non formées, dans le premier groupe aussi, ceci dit. Alors, c'est quoi la différence? C'est que l'ordre a un droit discrétionnaire. Qu'est-ce que c'est que le droit discrétionnaire? C'est que quand la règle n'a pas été rédigée ou écrite dans le marbre, eh bien, l'ordre a autorité pour dire « ça, vous pouvez faire, ça, vous pouvez pas faire ». Donc, concrètement, comment ça se passe pour moi? L'Ordre national des infirmiers, des kinésithérapeutes et des sages-femmes impose, quand on a une pratique de sexo, à différencier les deux activités. Clairement, il faut une barrière étanche entre les deux. Alors, comment ça se passe? Il faut avoir deux cabinets, deux lignes téléphoniques, deux déclarations fiscales. Il ne faut pas faire communiquer les patients de l'un à l'autre, c'est-à-dire que quand je suis sage-femme, je n'ai pas le droit de dire que j'ai une activité de sexo, et quand je suis sexo, je n'ai pas le droit de dire que j'ai une activité de sage-femme, parce que je pourrais recruter l'un dans le groupe de l'autre. Ça, c'est interdit. Donc, ça me paraît, un, complètement illusoire, et deux, pas particulièrement adapté à la période. Mais encore une fois, je suis pas en train de dire que les ordres ne font pas leur boulot. Je pense qu'ils le font très bien en fonction de leur niveau de connaissance actuel. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment structurer la sexologie parce que c'est clairement pas leur priorité. C'est pas leur job de faire ça. Leur job, c'est de manager leur activité. Donc, c'est déjà un très gros boulot et c'est déjà très compliqué. C'est aussi d'arriver à conjuguer tout ça avec les autres activités régies par des ordres. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, beaucoup de passerelles entre les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les kinés, voilà, tous ces gens, les pharmaciens, les dentistes, tout ça arrive à travailler à peu près correctement ensemble. Donc, ça veut dire qu'ils font bien leur boulot puisque c'est eux qui managent tout ça avec le ministère de la Santé. Mais ça veut dire aussi que comme ils ne connaissent pas cette activité, ben, ils ont un regard très vigilant et très privatif sur l'exercice que ces professionnels peuvent avoir. Alors, c'est moins le cas pour les médecins parce que historiquement, ils ont réussi à obtenir une reconnaissance de la sexologie auprès de l'ordre il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus que ça maintenant, je crois que c'était une trentaine d'années, grâce à un syndicat de médecins sexologues. Mais pour les trois autres professions ordinales, ça reste très très compliqué. Et ce groupe, c'est pas anodin, hein, c'est quand même grosso modo 40% de la cohorte. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en France qui ont eu des limites au niveau de l'exercice clinique qui sont tellement importantes que finalement, au bout d'un moment, ils arrêtent d'exercer parce qu'ils voient que c'est trop compliqué. Ou alors, ils sortent du cadre et ils se mettent en danger parce qu'être en conflit avec l'ordre, c'est pas une bonne chose pour un professionnel de santé.
Oui, du coup, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Par exemple, les sages-femmes qui n'ont pas le droit d'accompagner des hommes, c'est quand même difficilement compréhensible.
Alors, c'est pas si incompréhensible que ça. C'est qu'à partir du moment où tu vas exercer cette activité tierce, secondaire, celle de la sexo, par exemple, tu vas te référer à ton cadre d'exercice primaire. Donc, en l'occurrence, les sages-femmes en France ont le droit de voir des hommes dans un cadre très réduit. Alors, je vais peut-être dire des bêtises parce que je suis pas sage-femme et je connais pas tous les textes et je sais qu'il y a une très, très grosse évolution de ce côté-là. Mais globalement, ça a commencé avec la vaccination des papas, enfin des futurs papas, par rapport aux maladies qu'ils pourraient transférer aux enfants, avec la gestion du tabagisme, par exemple, c'est-à-dire que si on peut aider un papa à arrêter le tabac pendant que, enfin un futur papa à arrêter le tabac, c'est pas mal. Donc la vaccination, les IST, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je ne sais plus. Donc en clair, quand vous êtes sage-femme aujourd'hui en France, soit vous respectez la règle et vous ne voyez que des couples homosexuels féminins et vous ne voyez que des femmes en consultation. Mais vous pouvez pas voir de couples hétérosexuels et vous pouvez pas voir d'hommes en consultation. Ou sinon, alors qu'est-ce que vous risquez? Voilà, là, ça c'est toujours la grande question, quoi. Ben, si vous travaillez en face d'un cabinet médical et que le médecin qui vous voit faire, il vous voit tous les jours 20 patients masculins rentrer dans votre cabinet, un jour il va venir vous voir, il va dire « mais je croyais que c'était interdit ». Oui, oui, c'est interdit, mais bon, je fais de la sexo. Ah, voilà, donc c'est souvent sur dénonciation. Je suis pas en train de dire que les médecins dénoncent plus que les autres, c'est pas ça, mais voilà, ou ça peut être une collègue, sage-femme, qui a juste qui est pas d'accord, enfin voilà, qui un rappel à la loi, un rappel à l'ordre. Donc c'est pareil pour les kinésithérapeutes. Hein. Il y a aussi des privations au niveau de l'activité clinique. C'est pour ça que beaucoup de kinésithérapeutes qui font de la sexo se tournent vers la pelvipérinéologie, parce que ça, c'est un truc où il n'y a pas beaucoup de spécialistes en France, et ils et elles le sont. Et pour les infirmiers, ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que moi, je vais pas me lancer dans une observation clinique avec un patient à poil, quoi. Je peux voir des patients nus et je peux mettre mes doigts dans des orifices humains sous couvert d'une prescription médicale. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais clairement, je ne le ferai pas sur une consultation de sexo.
De toute façon, c'est pas nécessaire.
C'est mais pas nécessaire, mais il y en a qui le font.
Ah oui. Oui, bah, c'est aussi, quelque part, le métier de l'art, c'est que, étant donné que la sexologie, la pratique de la sexologie est tellement pas encadrée, ça se passe très bien dans la plupart des cas, mais effectivement, quand il y a des débordements et des gens qui respectent pas la loi, bah, le truc, c'est que, comme la sexologie est pas encadrée, il y a même pas de charte à respecter, de consignes, quoi que ce soit.
C'est ça.
Mais.
On parlait tout à l'heure du Québec, il y a un ordre des sexologues du Québec, il y a une charte, il y a des textes très précis qui encadrent beaucoup l'activité, vous avez obligation d'avoir une supervision, sur l'année. En France, vous avez une majorité de thérapeutes qui n'ont aucune supervision et qui travaillent dans un exercice très solitaire. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez marquant aussi dans notre étude. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de... Moi, je crois qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et très clairement, en sexo, un peu moins peut-être en thérapie de couple, mais en sexo, il y a des moments où vous allez probablement avoir besoin d'une consultation annexe, de médecine générale, de sage-femme, de psychologue. Enfin, être bon partout, c'est compliqué, quoi. Donc, savoir aussi se faire aider par d'autres professionnels, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y a quand même des groupes ou des sous-groupes dans notre étude qui ne se font quasiment jamais aider. C'est-à-dire qu'ils ont une activité très solitaire et ils ne consultent ou ne demandent jamais à leurs patients de consulter un autre professionnel. Bon, il faudrait s'intéresser complètement à l'exercice clinique de ces personnes-là, mais je trouve que ça pose question.
Nous, en tout cas, au sein de la TSF, on propose effectivement de la supervision.
Oui, il y a beaucoup, ça c'est quand même une vraie valeur ajoutée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de syndicats ou d'associations en sexo en France qui proposent de la supervision et c'est très bien. Je pense que c'est quelque chose qui devrait se généraliser.
Tu reparlais donc du Québec, on a beaucoup parlé aujourd'hui Québec et Belgique. Est-ce que du coup il y a moins de tabous dans ces pays-là en fait ? Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile par là-bas que chez nous au final ? Est-ce que c'est lié au tabou ? Est-ce que c'est lié à l'histoire de la sexologie relative à chacun pays ? Qu'est-ce qui a évolué finalement ?
Alors, je pense que le Québec c'est une nation un peu à part qui vit en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est il y a beaucoup d'éléments de liberté que l'on n'a pas forcément en Europe et inversement. Alors, je pourrais pas vraiment te répondre de façon précise. Pourquoi ça a autant émergé ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait moins de tabous ? Peut-être. Au début, je peux pas le dire. Aujourd'hui, clairement, il y en a beaucoup moins. On peut parler beaucoup plus librement de certains aspects de la sexologie avec beaucoup plus de facilité là-bas qu'ici. Je pense par exemple à la question de trans ou d'autres questions assez complexes. En Belgique, je ne sais pas. Après l'exemple de la Belgique, en France, il faut le prendre avec des pincettes parce que ça fait 30 ans que la sexologie doit être reconnue en Belgique. Donc le projet est sur la table, c'est une évidence. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, c'est une évidence. Il y a une guerre importante entre deux grands groupes que sont les médecins et les psychologues pour savoir qui aura le droit d'exercer la sexologie demain. Donc je pense qu'il faut s'inspirer de ça en France. Il y a un élément très important de notre étude sur ce qu'est la transdiscipline. Donc qu'est-ce que c'est la transdiscipline ? Nous, on n'a pas trouvé de définition correcte, mais c'est le fait qu'une activité professionnelle soit exercée par des gens qui viennent d'horizons très différents. Il n'y a pas de frein majeur en France sur l'exercice de la transdiscipline. C'est-à-dire que globalement, tous les professionnels qui exercent la sexo ou la thérapie de couple sont d'accord pour dire que d'autres professionnels qui ne sont pas formés comme eux puissent exercer cette activité. C'est pas complètement le cas partout pareil. C'est pas comme ça partout pareil. Il faut pas se leurrer. Alors, est-ce que c'est du déclaratif? Je ne sais pas. Il y a aussi le fait qu'on s'adressait à une cohorte qui était plutôt jeune et plutôt récemment sortie du cursus. Donc, il y a probablement un effet ouverture d'esprit à prendre en compte. On a repéré 2-3 clusters comme ça où il y a encore un peu de corporatisme et je vais pas les assassiner parce que j'ai beaucoup de respect pour eux. Ce sont les vieux médecins masculins. Donc, si vous envoyez autour de vous, allez les rassurer sur votre activité clinique, parce que peut-être qu'ils ont simplement besoin d'être rassurés. Et ce sont les gens de formation psy. Alors, là-dedans, vous avez les psychiatres, les psychothérapeutes, les psychologues et les psychanalystes. Il y a encore un peu de corporatisme à dire que le couple ne peut être traité que par ces gens-là. Pourquoi pas ? Encore une fois, moi, si demain l'État crée un titre et me dit Nicolas, t'as pas le droit d'exercer, pas de problème. Par contre, il va falloir me rembourser la formation qui m'a coûté très cher, parce que c'est pas normal de laisser les gens se former, de ne pas leur dire la vérité quand ils arrivent dans un centre de formation et de ne pas faire preuve de transparence sur ce qu'ils vont pouvoir faire demain, une fois qu'ils seront formés. Donc, pour te répondre sur l'aspect tabou, très probablement que oui. Encore une fois, apprendre avec des pincettes, parce qu'on ne pourra pas trop transposer du Canada ou de la Belgique à la France, ça n'est pas possible. La preuve en est, la Belgique patauge un peu à la choucroute depuis des années. Le projet de texte, il est écrit, il est rédigé, il est plutôt cohérent. La formation, elle est de qualité, les mutuelles remboursent. Mais il y a encore une guerre entre les représentants des psychologues et des médecins. Voilà. Alors, par contre, on peut s'inspirer de ça en France. Hein.
Justement, ça va être un peu la question pour terminer. D'après toi, justement, pour améliorer la situation en France, que ce soit au niveau, par exemple, des différents points qu'on a abordés, comme par exemple les personnes qui dépendent d'un ordre, qui ont des difficultés à pratiquer la sexologie, ou bien l'accès aux formations, ou bien la reconnaissance et la création éventuellement d'un titre de sexologue et ou de sexothérapeute, comment est-ce que d'un point de vue pratique, les uns et les autres, que ce soit collectivement ou individuellement, on peut essayer de pousser pour améliorer les choses et faire en sorte que ça bouge et que ça avance un peu?
Alors, je considère qu'aujourd'hui, croire que les instances en sexo vont solutionner la problématique, c'est une ineptie. Pour moi, c'est très cassant de dire ça, mais je l'assume complètement. Je pense que c'est des gens qui font la sieste sur ce sujet très précis depuis très longtemps. Je n'ai rien vu de probant et rien vu de très structuré sur ce sujet précis. Je pense que sincèrement, si on n'avait pas levé le voile sur ce qui se passe en sexo il y a 3-4 ans, quand on a commencé à sortir les premiers documents, personne ne se serait intéressé à nous. Donc ça a un peu bousculé les gens, donc ils ont été un peu obligé d'aller dans le sens de la foule, c'est-à-dire oui, en effet, il faut un titre, oui, en effet, il faut de la reconnaissance. Comment on peut faire pour que ça aille mieux? Ben, on l'a écrit il y a 3 ans dans un document sur la sexologie en 2023 en France. Comment elle est structurée, comment elle est composée, qui fait quoi? La question des ordres, pour moi, elle est à la fois complexe mais aussi très simple, c'est-à-dire que c'est des gens qu'il faut rassurer, il faut les inviter dans des congrès, il faut leur montrer la dynamique globale qui existe en sexo, il faut leur montrer les publications scientifiques dans des grandes revues impactées sur ce qui est fait en sexo, il faut leur montrer que les choses sont structurées et il faut les rassurer sur les ambitions de chacun. C'est-à-dire que très clairement, moi, si demain je suis autour d'une table pour essayer de faire en sorte d'exercer la sexo de façon plus simple, c'est clairement pas pour prescrire des IPDE-5. Ça n'est pas ce qui m'intéresse et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et je me battrai pour que les infirmiers ne prescrivent pas d'IPDE5. On n'est pas là pour ça. On n'a pas la formation. S'il y en a d'autres qui le font et qui le font beaucoup mieux que nous. Par contre, très clairement, quand j'entends des grands penseurs en sexologie en France expliquer que les sages-femmes qui se forment au DU et qui y passent 3 ans n'ont pas le droit de voir d'hommes après, bon, ben, il va falloir qu'ils réduisent le cursus de moitié, puisque la moitié du cursus, elle est attribuée aux hommes et la moitié aux problématiques féminines. Donc, il va falloir réinventer un système. Donc, je pense que c'est pas très menaçant pour une autre communauté que de voir des sages-femmes correctement formées voir des hommes en sexo. Moi, ça me fait pas peur. Maintenant, c'est un grand débat qui aura probablement lieu, qui risque de durer très longtemps s'il y a pas un arbitre avec un gros sifflet. Comment il faut faire les choses? Je pense qu'en effet, bon, les ordres, il faut les rassurer, il faut les inviter. Et ensuite, pour la formation, je pense que il faut rationaliser les choses. 110 formations en France dans 70 centres. Bon, c'est, pour moi, c'est une vaste blague. Ça n'a pas lieu. C'est le cirque, voilà. Je pense qu'il y a des formations qui sont en train de péricliter petit à petit. Donc, je dis pas qu'il faut les laisser tomber, mais il faut aussi se poser la question de pourquoi ça c'est en train de partir. Il y a des formations qui émergent. Donc, pourquoi celles-ci émergent? L'accessibilité à la formation, il faut clairement se poser la question. Qui va décider de ça? Moi, je pense que les sexologues de terrain ont aussi une grande responsabilité. Je les trouve profondément apathiques, attentistes. Quand j'arrive dans un congrès, bon, c'est pas très compliqué de m'identifier parce que c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'hommes. Donc, comme j'ai montré ma trombine sur 2-3 réseaux, bah, il y a des gens qui arrivent et qui commencent à me pleurer sur l'épaule en me disant oui, ça va pas, truc machin. Oui, ok, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais toi pour que ça aille mieux? Ah, ben, rien. Ah, ben, écoute, continue comme ça. Einstein disait aussi, il y a un seul être vivant sur Terre qui est capable de faire et refaire la même chose à l'infini et de croire que le résultat sera différent, c'est l'être humain. Bon, ben voilà quoi, on fait la même chose depuis 20 ans. Donc il faut changer de braquet et il faut se mobiliser, il faut se structurer et il faut se mettre autour d'une table et discuter. Et là, je pense que, alors je l'ai pas dit, mais quand j'ai posté un premier sondage en ligne il y a 3 ans, j'ai été contacté par 2 assistantes parlementaires où justement on parlait de la création d'un titre, la rédaction de certains textes juridiques pour encadrer la profession. Encadrer, c'est pas fliquer tout le monde, hein. Moi, je suis pas un gendarme. Je dis juste poser quelques lignes de base qui permettraient au patient de se repérer dans l'espace. Parce que carrément, aujourd'hui, il est paumé, le patient. Eh bien, les assistantes parlementaires m'ont dit, nous, on vous aidera à rédiger la loi. Par contre, vous avez un très gros travail à faire entre vous sur qui va faire quoi. Et là, ça va être très compliqué. Je vois mal autour d'une table le conseil de l'ordre des médecins et des Bac plus 15 se mettre à côté de gens qui vont représenter, je sais pas moi, des psychothérapeutes qui ont été formés il y a 50 ans et se mettre d'accord sur un exercice commun. C'est dommage, parce que ça va être des garde-clochers, parce que quand on est représentant d'un syndicat, on représente, enfin, il y a quand même un certain dogme qui est sous-jacent, et c'est dommage. Donc, peut-être que les choses sont à faire par les sexologues de terrain, tout simplement. Se rencontrer, se fédérer, parler de qui peut faire quoi, faire des choses simples. Moi, je crois beaucoup à la simplicité. Des choses basiques. Rédiger 4 règles de base, ça suffira pour structurer les choses.
Essayer de se mettre d'accord sur le terrain, sur une charte commune.
Exactement.
Éventuellement créer un annuaire gratuit où tout le monde peut s'inscrire.
Exactement. On en a parlé.
Sans faire payer ça, tout le monde, 50 euros par mois, parce que les gens n'auront pas l'argent de le payer, etc.
C'est la statistique majeure de notre étude. C'est 95% des sexologues et des thérapeutes de couple en France sont d'accord pour créer un annuaire partagé des thérapeutes. Voilà. Qui va le faire? Personne. Pourquoi? Parce que la question sous-jacente, c'est qui peut intégrer le annuaire? Toi, t'es formé à quoi? Toi, t'as fait quoi? Toi, tu sors de quoi? Toi, tu fais combien de consultations par mois? Voilà. Donc, il va y avoir un gendarme, de nouveau, qui va autocratique, c'est-à-dire un mec qui va arriver, sorti de nulle part, et qui va dire, moi, j'autorise telle et telle personne à rentrer dans l'annuaire. Vous pouvez pas laisser les gens faire tout seuls. Pour une fois qu'ils ont une bonne idée, laissez-les s'inscrire. Et on verra après, tout n'est pas figé dans le marbre. On verra après s'il faut arbitrer, s'il faut changer certaines règles, s'il faut en effet, structurer les choses un peu plus. Bon, voilà. Moi, je considère franchement que les sexologues sont très attentistes. Et ils vont crier un peu dans les congrès, dire qu'ils sont pas contents, et puis 15 jours après, ils vont attendre. Il y a une annonce qui a été faite il y a bientôt deux ans, en mars, sur la création d'un titre, par un homme que je vais pas citer parce que je l'aime bien et que ce serait l'intérêt. Je crois que ce sujet n'a pas avancé. Voilà. Comment les coachs ont réussi à obtenir un titre de coach en France en 1 an? Voilà. Comment les sexologues n'arrivent pas à obtenir un titre de sexologue en 5 ans? Champion du monde.
Et quelle est la suite pour l'Observatoire francophone de la sexologie, alors?
La mort. On va s'arrêter. Non, mais c'est clair. Nous, on a fait le choix de ne pas ouvrir de la possibilité aux gens de s'affilier à notre association. C'était voulu. On va pas faire de grandes promesses. Nous, on a dit qu'on allait faire une étude. Bon, il se trouve que on a fait la plus grande étude sur les sexologues au monde. Voilà. Bon, on greffe pas des cœurs, mais c'est pas rien non plus. Quand on voit que 4 mois après la sortie de l'étude, pas une seule instance majeure en sexo en France s'est emparée des résultats, ne l'a proposé à ses adhérents, que personne n'a repris aucun, enfin, on nous a pas proposé de venir intervenir dans un congrès pour parler plus librement de ce qu'on pourrait faire, de demain, de certains chiffres qui posent problème. Bon, moi j'ai fait une présentation l'année dernière, je crois qu'on était 70 et dans la salle. Bon. Visiblement, cette question n'intéresse pas tout le monde. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a 100% des sexologues demain qui veulent un titre. Et il n'y en a pas un qui est en capacité de bosser sur le sujet. Moi, je crois avoir fait déjà beaucoup. Enfin, nous, on a fait déjà beaucoup sur ce sujet. On a pondu beaucoup de documents. On a été très actifs. On a essayé de fédérer les gens autour d'une idée commune. Après, si ça ne suit pas, on va pas s'acharner. Hein. J'ai pas envie de ressembler à l'éleveur de vaches laitières qui bosse depuis 30 ans, qui est surendetté et qui est aux deux doigts du suicide parce qu'il n'arrive pas à enclencher les choses. Je pense que j'ai une autre vie à vivre. Donc, et je pense sincèrement qu'on me demandera jamais mon avis sur la question parce que mon avis risquerait de déranger beaucoup trop. Donc faut faire avec. Voilà. Nous, on a lancé une étude qui, a priori, sur le plan méthodologique, n'a pas été reprise par nos détracteurs. Donc, ça veut dire que c'est solide. Il y a évidemment des biais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à enquêter là-dessus encore. Et faire, proposer une thérapeutique à un patient sans faire d'anamnèse, je trouve que c'est très dangereux. Donc, clairement, décider de demain de ce que sera la sexo sans s'inspirer à minima de ce qu'on a sorti, Bon, c'est se foutre de la gueule du monde.
Je me demande si ça peut pas venir aussi de communication auprès du très grand public, si c'est pas oui. quelque chose qui peut venir de la part du très grand public.
Oui.
Parce que par contre, la question de la sexualité et de la sexo, il y a des dizaines de comptes Instagram qui provoquent énormément d'intérêt de la part de la population. Et peut-être qu'on va sentir une grogne de la part des gens, des clients, des patients, peu importe le nom qu'on utilise. Parce qu'au final, là, on est en train de parler entre professionnels et c'est le but du podcast, mais c'est vraiment aussi la qualité du soin. Et c'est, le fait qu'il soit à ce point-là perdu et parfois mal accompagné, c'est quand même un énorme problème. Et peut-être qu'un jour, il va y avoir un dossier fait par, je sais pas si ce sera 60 millions de consommateurs ou un compte Twitter ou Mediapart ou que sais-je, mais qui permettra de enfin mettre le sujet au centre, quoi.
Absolument. Moi, je pense qu'il faut réaliser une très grande étude d'impact sur la qualité des soins sexuels et en thérapie de couple en France. C'est quelque chose qui va coûter cher. C'est quelque chose qui va être difficile à organiser. C'est quelque chose où il va falloir convaincre les professionnels et les patients de nous faire confiance et de nous parler. Et je pense qu'en effet, le grand public doit s'emparer de cette question, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être correctement soignés par des gens correctement formés et d'avoir une information correcte quand ils choisissent un thérapeute. Clairement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, qui va s'emparer de ça? Je sais pas. Je pense que c'est pas une priorité nationale et ça peut tout à fait se comprendre. Mais alors, il y a déjà eu beaucoup de mémoires sur la qualité des soins en sexo et sur la nécessité des soins en sexo. Les chiffres, ils sont affolants, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un suivi en France. C'est su. Maintenant, je pense que tout le monde n'est pas en capacité ou n'a pas la volonté de payer ces soins-là. Donc ça aussi, c'est une question qu'il faudra traiter à un moment ou à un autre. Avant de commencer, on discutait un petit peu. Tu me disais, est-ce que tu te sens à l'aise? Je te dis, c'est la 7e interview en 3 ans. J'ai été interviewé par Paris Match. Le lendemain, il s'est rien passé, quoi. Alors peut-être que c'était pas le bon moment, j'en sais rien. Mais personne ne s'est emparé du truc. Donc quelle association de patients va s'emparer de ça? Je ne sais pas. Qui va faire bouger les choses à un moment ou à un autre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un politique qui va à un moment l'envie de travailler sur ce sujet? Je ne sais pas. Est-ce qu'un média va s'intéresser à ça?
En ce moment, on en parle beaucoup. C'est pareil, ça inquiète les parents. Les parents sont inquiets de ces programmes sur l'éducation à la vie sexuelle, affective. Et relationnel. Donc ça, c'est quelque chose, c'est peut-être un courant sur lequel il faudrait se positionner.
Ben clairement, moi, quand je vois comment l'éducation à la vie sexuelle effective a été faite à mon gamin au collège, soit on n'a pas eu les mêmes cours, soit c'est dramatique. Donc oui, il y a quelque chose dont il faut s'emparer. Maintenant, qui va le faire? Voilà. Donc nous, dans nos statuts, il est clairement écrit qu'on essaye de comprendre comment élaborer la sexo et de travailler demain sur la revalorisation des cursus, des compétences et la création d'un titre. Mais c'est pas des choses qu'on pourra faire tout seul. On n'a pas de budget. Hein. Toute cette étude, qui a coûté un pognon fou, a été faite sur fonds propres. Ça coûte très cher. Je vous donne un chiffre. Je vais pas vous dire combien nous a coûté. La dernière étude d'Alain Giammi, 140 réponses. Budget total, 50 000 euros.
C'est ce que j'allais dire, c'est que déjà le travail que vous avez réalisé tous les trois, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Alors malheureusement, c'est un travail qui permet surtout de mettre en lumière en fait tous les autres manquements qu'il y a dans la profession, qui sont absolument gigantesques. Mais effectivement, c'est pour ça que je tenais à t'avoir en interview, c'est que le travail que vous avez fait, il est déjà incroyable, quoi.
Oui, il y a beaucoup de sexologues qui sont très intéressés par ces questions, qui nous disent qu'on a fait un bon boulot et que c'est super intéressant, que c'est bien construit et qu'il faut que ça émerge quelque chose. Mais le fait est que les gens qui dirigent les instances en France aujourd'hui nous ont pas appelé. Même il y en a d'autres qui se sont emparés des résultats et qui ont fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Donc bon, pourquoi pas, mais il y a beaucoup à faire. Et après, encore une fois, nous, on n'est pas du tout indispensable. Moi, je disparais demain, tout le monde se passera de moi. C'est pas du tout un problème.
Ouais.
Mais le fait est que c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas d'initiative avec un peu de punch, quoi. Parce que si c'est pour sortir un truc dans 5 ans, bon, les datas, elles seront déjà dépassées.
Ok. Bon, écoute, pour la suite, il y a des commentaires qui sont présents, que ce soit sur peu importe la plateforme que vous utilisez, YouTube, etc. Donc, si jamais ça vous intéresse de contacter Nicolas ou de faire des propositions d'organisation, on pourra échanger les uns avec les autres. Moi, forcément, c'est une question qui m'intéresse. Après, je travaille en libéral. C'est vrai que, comme tout le monde, j'ai ma vie perso, j'ai ma vie professionnelle. C'est compliqué derrière. Alors qu'en plus de ça, je suis pas professionnel de santé à la base. En termes de légitimité, c'est compliqué aussi de trouver trouver du temps et l'énergie pour s'impliquer sur ces questions-là, quoi. Mais comme tout le monde, j'ai envie que ça avance, mais c'est un peu compliqué de trouver les moyens pratiques de s'y consacrer, quoi.
Nous, sincèrement, on pensait qu'à la sortie d'études, on aurait beaucoup de commentaires de la part de sexologues. Alors, pas sur le fil YouTube, parce qu'on a coupé les commentaires volontairement, parce que bon, on s'attendait un peu à tout, à n'importe quoi. On a reçu 2 mails. Un mail de félicitations et un mail pour nous dire j'ai pas de temps pour regarder une vidéo pendant 45 minutes. On avait prévu de faire un gros live parce qu'on pensait qu'il y aurait beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations sur qui peut faire quoi, qu'est-ce qu'on peut changer, tout ça. Bon, rien. Donc, et encore une fois, je reçois par contre beaucoup de mails tous les mois de gens qui râlent.
Je vais terminer par une question. Qui est-ce que tu aimerais voir comme sujet ou comme personne interviewée dans le podcast, si tu as une idée? Alors, la question n'a pas été posée en avant, donc c'est un peu compliqué de poser ça sans te laisser le temps de réfléchir. Mais si jamais tu as une idée, ça pourrait...
Alors, qui j'aimerais écouter dans le podcast? Alors, après, il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du réel, mais le ministre de la Santé sur la sexo, ça paraît compliqué, oui. Mais on ne sait jamais, il faut y croire. Et après.
Et puis, en plus de ça, les ministres en ce moment, ils peuvent changer un peu toutes les 3 semaines.
Oui, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais il faut prendre rendez-vous à l'avance. Mais sinon, pourquoi pas écouter une enseignante ou un enseignant de l'UQAM, par exemple? Ça peut être quelque chose d'intéressant. Interviewer une personne qui s'occupe, que j'ai trouvé brillante. Alors, je suis désolé, j'ai oublié son nom et son prénom. C'est une catastrophe à en vouloir. C'est la présidente d'une association de sexologues en Belgique, hein, que j'ai trouvé vraiment brillante à une intervention que j'ai faite dans un congrès. Je vais essayer de retrouver son nom et son prénom. Je suis désolé. Qui a travaillé sur le titre, la reconnaissance. Franchement, sa présentation, c'était 5 minutes. C'était hyper dense. C'était très, très bon. Il n'y avait rien à jeter. Elle, je pense qu'il faut l'écouter parce qu'elle va nous apprendre nos possibles échecs de demain. Et ça, c'est, je pense, sur le sujet dont on vient de traiter, c'est assez intéressant.
Bah écoute, on va échanger une fois qu'on a retrouvé son nom, voir si on peut la contacter.
Merci beaucoup.
Bah écoute,
avec plaisir, oui, merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup. Alors, sous la vidéo, je vais vous mettre le lien vers l'étude de Nicolas. Je vais mettre le lien vers la vidéo YouTube. C'est peut-être le meilleur moyen d'avoir un résumé. Et également, si vous voulez vous inscrire au podcast, normalement, c'est possible dans votre application. N'hésitez pas effectivement également à mettre un petit like ou des choses comme ça, ou à parler tout simplement du podcast autour de vous. On vous rappelle également que c'est le podcast de l'ATSF qui est une pratique particulière de la sexologie. On va également vous mettre le lien si vous souhaitez vous renseigner sur la thérapie sexo-fonctionnelle. Donc n'hésitez pas également, si ça vous intéresse, de vous renseigner sur la thérapie sexo-fonctionnelle. Sur ce, merci à tous les deux et je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.